Bonjour à tous, à chacun, chacune. Deux mots que j'ai glanés un peu dans les chants que nous venons de chanter. Le mot « Hosanna » et le mot « Christ est roi », enfin l'expression « Christ est roi ». Et ça fait un écho dans mon cœur, je m'éloigne un peu des micros, ça fait un écho dans mon cœur, dans le sens que « Hosanna » c'est un cri qui vient du fond de notre être. Ça veut dire éternel sauve, éternel intervient, éternel tout mon espoir est sur toi. Et puis la réponse c'est évidemment Christ est roi, roi et en tant que roi il vient à notre secours, à notre rescousse. Et on a bien besoin de ça. Je voudrais prendre une image avant d'apporter le message et qui va l'introduire. C'est un peu ces deux salles que nous avons ici, une salle bien réfrigérée, bien climatisée, et puis la salle où nous avons prié tout à l'heure, qui est une salle qui ne l'est pas et dans laquelle évidemment il fait chaud. Et ça m'a laissé sur le cœur, dans mes pensées, cette image que quelquefois nos vies sont rafraîchis par le Seigneur, tout va bien, on est en paix, on voit notre chemin, et puis quelquefois, c'est la stérilité, c'est la sécheresse, on voit pas, on voit rien, on n'est pas très bien. Et c'est nos vies. Aucun d'entre nous ne peut dire qu'il est toujours rafraîchi ou qu'il est toujours dans la sécheresse. Et donc le but du Seigneur ce matin, je pense, c'est de nous encourager. Bien sûr, nous connaissons les pensées que je vais développer. Peut-être je vais décevoir certains d'entre vous, dire « mais ça, on le sait déjà, c'est vrai ». Mais je pense que le Seigneur veut nous rappeler cela. Il voudrait ce matin nous fortifier, nous rafraîchir en nous rappelant que nous sommes un peuple céleste. Un peuple qui vit du ciel et un peuple qui mène des expériences sur cette terre imprégnées du ciel. Alors on va lire un chapitre du Nouveau Testament, tout un chapitre. Et au cours de cette lecture, vous allez avec moi essayer de comprendre pourquoi l'apôtre Paul va partir un peu, pardonnez-moi l'expression, dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il va aborder des thèmes aussi variés les uns des autres, au point que on est un peu déstabilisé et on cherche un peu le fil rouge. Et justement, la première partie du message, ce sera de développer ce fil rouge de ce qui est traité dans ce chapitre. Alors, nous allons lire ce chapitre accompagné de 3 ou 4 versets de l'Ancien Testament. Et puis, comme je ne veux pas que vous dormiez, ni que vous ronfliez, de toute façon, si vous ronflez, ce sera de ma faute, n'ayez aucune crainte là-dessus, eh bien, nous allons essayer de trouver le corollaire qu'il y a entre ces versets de l'Ancien Testament que je vais lire et ce chapitre 4 des Philippiens. Je lis dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4. C'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, Faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre soin, de prendre part à ma tribulation. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église, si ce n'est la vôtre, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait, qu'elle recevait. Vous avez été les seuls à le faire, car à Thessalonique déjà, et à deux reprises, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche le don. Ce que je recherche, c'est le fruit abondant porté à votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Christ Jésus. À Dieu, notre Père, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Saluez-vous, saluez tous les saints en Christ Jésus, les frères qui sont avec moi vous saluent, tous les saints vous saluent, principalement ceux de la maison de César, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Ainsi se termine la lettre de Paul aux Philippiens. C'est beau ce qu'on a lu. Il y a des versets qui sont vraiment clés que beaucoup de chrétiens devraient afficher sur leur frigo pour le lire le matin quand ils se réveillent ou à tout moment de la journée. C'est très beau. Seulement, comme je le disais, on peut être un peu dérouté quand on voit cette dispersion, bon, c'est pas très gentil, mais cette variété de thèmes que l'apôtre Paul a dans ce chapitre. Alors, notre but, c'est de chercher, et le premier mot que nous avons lu va nous aider. Ça va être un indice dans notre recherche. Ce premier mot que nous avons lu, c'est pourquoi. S'il y a un « c'est pourquoi », c'est donc que dans les versets qui précèdent, il y a peut-être quelque chose qui va nous aider à aller plus loin. Et effectivement, dans le chapitre 3 et au verset 20, nous lisons ceci. « Pour nous, notre citoyenneté est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux, etc. » Notre citoyenneté est dans les cieux. Alors, qu'est-ce que c'est que la citoyenneté? Or, j'ai regardé dans le Larousse, ou sur Google, plutôt. Maintenant, c'est... La citoyenneté, c'est quand on habite un pays et qu'on a envers ce pays, on reçoit des droits. Ça, on y compte bien dessus. Mais on a aussi des devoirs pour la vie en commun. Être citoyen, c'est avoir ce sens de la communauté par rapport à un pays où on habite. Alors, retransposer sur ce que nous sommes en train de vivre, n'oublions pas que le Seigneur veut nous rafraîchir par ses pensées. Quels sont nos droits? Eh bien, si nous lisons le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, nous les avons pratiquement. La liste n'est peut-être pas exhaustive, mais nous en avons pas mal. Le Seigneur nous dit que nous sommes des gens qui sont bénis de toute bénédiction spirituelle. Donc déjà, ça place le curseur au bon endroit, dans les lieux célestes. Il nous dit que nous sommes élus, que nous sommes choisis. Tout ça, ça fait partie des choses qui doivent nous venir d'en haut comme nos droits, comme ce que le Seigneur nous donne indiscutablement par l'œuvre de Jésus à la croix, par le fait que Dieu nous a fait naître de nouveau. Alors j'espère qu'ici, je ne vous connais pas tous, tant mieux dans un sens, mais j'espère qu'ici, beaucoup sinon tous sont nés de nouveau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour naître de nouveau? Il faut accepter Jésus comme son sauveur, comme son sauveur personnel. Il faut simplement dire, Seigneur, sauve-moi, je suis perdu à cause de mes péchés. Les péchés, c'est ce qui fait séparation entre nous et Dieu, vous le savez. Dieu qui est saint ne peut pas recevoir un pécheur. Et ce péché doit être enlevé et il n'y a que le sacrifice de Jésus qui permet cela. Et du coup, nous ajoutons foi à ce qu'il a fait. Et instantanément, dans la seconde où cette foi vient dans notre cœur, Dieu le sait, Dieu le voit, Dieu nous fait naître de nouveau. Il nous donne une vie nouvelle. Il vivifie notre esprit et nous devenons enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Ce mot est important, ce verbe est important. Hein ? À tous ceux qui l'ont reçu, nous dit l'évangile de Jean au chapitre 1er, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, ou la parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc je dis ça, s'il y a des enfants, je dis ça à mes petits-enfants, hein, Mathieu le sait. Hein, Pierre, disons, et Victor, ils connaissent leur papy. C'est pas parce que leurs parents sont chrétiens qu'ils le sont. Voilà. Dieu les appelle aussi à mettre leurs mains dans celles du Sauveur et à naître de nouveau. Dans ce chapitre premier d'Éphésiens, nous avons aussi cette expression que nous sommes adoptés. Dieu nous a adoptés. Je ne sais pas si vous réalisez le sens vraiment profond de ce mot adopté, mais on prend son nom, tout ce qui est à lui, eh bien, il nous le destine, il nous apporte sa protection, il nous apporte tout ce qui est à lui, adopté. Il nous dit aussi que nous sommes saints et irréprochables. Est-ce que ce n'est pas de nature à descendre dans nos cœurs ce matin, pour nous qui avons souvent un regard négatif sur nous-mêmes, de nous dire qu'en Jésus-Christ, Dieu nous voit saints et irréprochables. Pourquoi ? Parce que Jésus a tout enlevé et l'a jeté au fond de la mer. Ce sont des certitudes, ce sont des choses que Dieu nous a données, ce sont nos droits. C'est ce qui fait de nous des citoyens célestes. Et nous avons besoin de cela pour appréhender notre marche de chaque jour. Cela va nous aider. Cela va nous permettre de ne pas nous laisser emporter. Tout à l'heure, je donnerai quelques exemples concrets. Oui, l'apôtre aborde des thèmes aussi variés parce que nos vies sont variées. Souvent même dans une même journée, regardez le nombre de choses auxquelles nous avons à faire face. Et dans tous ces domaines, Dieu veut mettre sa main. Dans tous ces domaines, Dieu veut mettre sa présence. Il veut nous accompagner dans tous les domaines de notre vie. Quelquefois, c'est des petits domaines, entre guillemets, mais quelquefois, c'est important. Quelquefois, ce sont des graves maladies. Ce matin, je disais dans la voiture à Mathieu que dans notre église, nous avons un frère qui rentre cet après-midi à Montpellier. Une tumeur cancéreuse dans la tête. 55 ans. Ancien d'église. Qu'est-ce qu'il doit se passer dans ses pensées? C'est ce que je me dis souvent. Je prie pour lui. Au moment où je vous le dis, nous prions ensemble pour lui, pour son épouse. Ce sont des choses graves. Eh bien, tout ce que je vous dis là, ce sont des choses que le Seigneur veut mettre sur son cœur et sur nos cœurs à chacun pour tous les domaines de notre journée. Et on verra des exemples tout à l'heure. Alors maintenant, je vous ai promis que nous lirions un passage dans l'Ancien Testament, parce qu'il faut avancer, dans le livre des Nombres. Pas souvent qu'on lit dans le livre des Nombres. Le livre des Nombres, c'est le passage du peuple d'Israël dans le désert. Et au chapitre 15, nous lisons ceci, je vous le lis. Au verset 37. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites. Et tu leur diras qu'à chaque génération, ils se fassent une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel, etc., etc. Je ne vais pas plus loin. C'était un commandement pour chaque génération. L'Israélite devait avoir à son vêtement un petit pompon bleu. Alors, il y a certainement des couturières parmi vous. Le Seigneur ne leur demande pas demain de coudre un petit pompon bleu à leur habit. Mais, pour les Israélites, c'était ça. Pourquoi? Si on posait la question à Victor, à quoi la couleur bleue te fait-elle penser? Il nous dirait, j'espère qu'il ne dirait pas les schtroumpfs, mais j'espère qu'il répondrait le ciel. Et oui, le bleu, c'est le ciel. Dieu voulait que chaque Israélite, constamment tout au long de la journée, puisse, au travers des circonstances diverses et variées, regarder en haut, faire intervenir le Seigneur, compter sur sa présence, compter sur son amour, compter sur sa puissance. Évidemment, nous avons besoin de cela. Alors, c'est assez facile lorsque nous sommes ensemble au culte de penser au Seigneur. Nous chantons des cantiques, surtout avec des bons musiciens, n'est-ce pas, que j'encourage vraiment. Nous écoutons des versets de la Bible qui sont porteurs. Nous nous voyons les uns les autres et nous disons « Tiens, ce frère, cette sœur a la même foi que moi, ça m'encourage de le voir ce matin. Nous sommes la famille de Dieu. » Et puis, le lundi, nous nous retrouvons bien souvent dans notre quotidien, toute seule ou tout seul. Et c'est là que nous avons besoin, comme quelqu'un l'a dit dans sa prière, d'être fortifié pour la semaine. Et je crois que le Seigneur veut nous rappeler cette petite frange bleue que nous porterons dans nos cœurs tout au long de la semaine en pensant « Je suis du ciel. Je suis du ciel. » Deux courts témoignages. La semaine dernière, j'ai fait la visite sur Nîmes d'une sœur âgée. Et cette sœur, elle a une maladie qui la cloue au lit. Son mari se dévoue tant qu'il peut pour l'aider, mais elle ne bouge pas. Elle a ses doigts complètement recroquevillés comme ça par l'arthrose. Et j'avais prévu, dans la visite que j'avais prévu de lui faire, de lui lire des versets, mais le Seigneur m'a conduit dans une toute autre direction. Quand j'ai vu ses mains comme ça, qui étaient recroquevillées, j'ai dit, tu sais ma sœur, le Seigneur va te donner un corps transformé. Je ne veux pas parler d'un miracle. Bien sûr, c'est possible au Seigneur. Il est tout-puissant, il peut à l'instant même te guérir. Je ne parle pas de ça. Je parle que quand le Seigneur Jésus va nous prendre auprès de lui, instantanément, ton corps sera transformé. Et il est dit, et alors on a lu le verset ensemble, ton corps sera transformé à la ressemblance du sien, à son corps de gloire. Mon corps aussi, puisque nous appartenons, son mari était là, nous appartenons ensemble au Seigneur, notre corps sera transformé, plus de douleur, plus de malformations, plus de souffrances, plus de frustration, plus de tristesse. Alors, ça n'est suivi une conversation sur l'enlèvement des croyants. Et quand ça s'est terminé, elle me dit, « Oh André, si tu savais comme ça m'a fait du bien que l'air du ciel vienne dans mon lit, là, comme ça, par ces versets, comme ça m'a encouragé. » Et oui, parce que ce chapitre, il se termine, « Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. » Nous avons besoin, comme cette clim vient physiquement nous rafraîchir, nous avons besoin que le Seigneur nous rafraîchisse nos cœurs. Donc souvenez-vous, dans la semaine qui s'ouvre devant nous, que nous sommes, vous êtes, citoyens du ciel. Là, je vais vous faire sourire par un autre témoignage. Oh, certainement comme vous. La semaine dernière, j'étais un peu perturbé par ce que j'entendais à la télévision et je me suis un peu branché là sur les actualités, sur le discours de M. Bayrou, entre autres, et sur tous les commentaires qui accompagnaient cette fameuse crise de la dette. Et alors que je commençais à m'énerver intérieurement et à sentir que la pression montait, grâce à vous, puisque j'étais en même temps dans ce message que je préparais, le Seigneur me dit, André, quand même, tu es citoyen du ciel. Et voilà qu'en méditant encore cette pensée, les choses se sont apaisées, je vous rassure, et les choses ont repris leur cours normal. Mais cet exemple pour vous montrer que nous avons des pressions. Là, je vous ai parlé d'un fait banal, d'actualité. Mais vous pouvez chacun dans vos vies vous rendre compte combien la pression monte pour telle et telle raison et que le Seigneur veut nous apaiser. Il a apaisé cette sœur qui était sur son lit de souffrance. Il m'a apaisé moi. C'est pas la même chose et c'est insignifiant. Mais quand même, rappelez-vous dans la semaine, lorsque vous serez en proie à certaines... Vous serez malmené d'une manière ou d'une autre. Et puis j'en connais un qui met le paquet, hein. Pour nous déstabiliser, rappelons-nous que nous sommes du ciel. La deuxième chose que je voudrais vous partager, ce sont trois verbes dans notre lecture. Ces trois verbes, vous allez vous en rappeler, l'apôtre Paul dit « J'ai appris, je sais, je peux ». Il le dit dans ces versets de Philippiens 4, « J'ai appris, je sais, je peux ». Comment pouvons-nous les appliquer à nous-mêmes? L'apôtre nous apprend que ce n'est pas un apprentissage académique, ce n'est pas une leçon qu'un professeur apprend à son élève en lui disant « Demain, je te fais réciter ». Ça n'a rien à voir avec ce genre d'apprentissage. C'est un apprentissage sur le terrain. C'est un apprentissage expérimental. L'apôtre Paul a dû apprendre. Il a appris par la souffrance, par l'épreuve. Il a appris dans le dénuement. Et il a dû apprendre aussi dans l'abondance. Je voudrais que ça parle à chacun d'entre nous. Quel que soit l'état de notre porte-monnaie, nous avons à apprendre. Quel que soit l'état de notre besoin, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans la solitude, que ce soit dans toutes sortes de problèmes familiaux avec les enfants, avec les parents, avec le conjoint, nous avons à apprendre. Bien souvent, notre prière, ce n'est pas ça en premier. Bien souvent, notre prière, c'est « Seigneur, enlève-moi les chardes ». Ça, nous sommes bons pour ce genre de prière. « Seigneur, que ça s'arrête. Seigneur, interviens. » C'est pas faux, évidemment que c'est pas faux. J'y parlais tout à l'heure d'Hosanna, mais c'est le cri du cœur qui a besoin du Seigneur. Ce n'est pas faux. Mais ce serait bien que nous apprenions aussi ce genre de prière. Seigneur, qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Qu'est-ce que tu as à m'apprendre dans ce que je traverse de douloureux, de difficile? Et que, vous l'avez certainement entendu, parce que je ne suis pas là tous les dimanches pour entendre les prédications, certainement que Timothée a dû utiliser cette expression, et que notre « pourquoi » en un seul mot se transforme en « pourquoi » en deux mots. C'est joli, on le retient ça. Hein. Le « pourquoi » qu'on dit vite au Seigneur, « pourquoi Seigneur ?» se transforme en « dans quel but ? Pour quelle raison ? Qu'est-ce que tu as à m'apprendre ?» J'ai appris. Maintenant que, Seigneur, tu m'as appris, je le sais. C'est quelque chose qui fait partie de, maintenant, de mon état d'esprit. Je le sais. Si les circonstances reproduisent le phénomène, je vais pouvoir, avec ta force, avec ton aide. J'ai appris, je sais. Je peux. Ce n'est pas, encore une fois, académique. Ce que vous entendez ce matin ne fera pas grand-chose. Mais vous pouvez peut-être, en se familiarisant avec ce que l'apôtre nous dit et avec ce que le Seigneur nous dit ce matin, vous servir, nous pourrons nous servir de nos expériences journalières pour grandir. Je le souhaite en tout cas. Alors, je voudrais donner encore un témoignage. Oui, l'heure est là. Prenons le cas que je vais inventer de quelqu'un qui met la main sur la poignée de sa porte pour entrer chez lui et, avec un grand soupir, va dire « Seigneur, je vais encore retrouver ma maison toute seule. Je vais être seul ou seule dans ma maison ce soir. J'ai pas envie de vivre cette solitude. » Au secours, Seigneur. Et parce que cette personne a fait cette prière, le Seigneur va orienter les choses. Et dans un moment de méditation, de recueillement, cette personne va, alors j'invente, hein, mais c'est peut-être aussi notre quotidien, cette personne va subitement penser à un membre qui souffre dans l'Église, quelqu'un qui a besoin de prière, et se mettre à prier, tout simplement, et petit à petit se décentrer d'elle-même, de lui-même. Et petit à petit, occupé du Seigneur, occupé de prier pour cette personne, une forme de paix, de joie et de bien-être va s'installer dans son cœur. Oh, 10 heures du soir, l'heure d'aller se coucher, et je suis en forme. Nous nous retrouvons la semaine suivante, peut-être aujourd'hui, tiens, quelqu'un rentre chez lui, pose la main sur la poignée de la porte, la même personne, bien sûr, dans mon exemple, et se dit « Ah, encore un moment seul. Mais, au fait, j'ai appris. Mais j'ai appris la dernière fois. Je sais. Je vais pouvoir. » C'est ainsi que le Seigneur veut que nous puissions, dans nos vies, mettre en pratique. Mettre en pratique ce fait que nous sommes citoyens du ciel et que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes de notre patrie, avec notre Christ, notre roi, avec nous. Quelquefois, les choses peuvent être douloureuses, plus douloureuses encore. Il y a une vingtaine d'années, entre 15 et 20 ans, j'ai eu des soucis avec un frère. Les choses se sont gâtées entre nous et me voilà bien malheureux, ayant entendu des choses qui m'attristaient profondément. Et je suis resté vraiment dans cette situation 2-3 mois, ne sachant pas comment gérer cette situation. Je savais que tout chrétien, toute chrétienne est mon frère, ma sœur. Ça, vous le savez. Vous le savez. Si Dieu est mon père et que Dieu est son père, nous sommes frères et sœurs. Mais ça, c'est un savoir un peu académique des fois, comme je disais tout à l'heure. Le Seigneur veut nous amener dans le concret. Et ce frère qui m'avait tant peiné, restait mon frère, et ça, mais un frère avec qui j'avais envers qui j'avais des pensées qui n'étaient pas bonnes. Et un jour que, avec ma voiture, je traversais Beauvoisin, j'ai entendu cette voix, alors c'est pas une voix audible, mais une pensée forte. Va le trouver. Va le trouver. Vraiment. Avec ce qu'il m'a dit, je ne vais pas le trouver. Mais tout en disant non, je me suis surpris en train de faire une marche arrière et à prendre la direction de sa maison. C'est incroyable ça. Je disais non et je le faisais. Partie pour partie, j'ai fait la 20aine de kilomètres qui me séparaient de sa maison et je me retrouve curieusement dans sa cuisine avec son épouse et lui. Alors évidemment, il faut briser la glace. Hein. Alors c'est plus facile avec une personne enjouée comme son épouse. « Ah André, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, c'est bien, merci de venir nous voir, etc. » Frère, dans son coin, moi, très hésitant. Et puis à la fin de cet entretien, je lui dis « Tiens, si on faisait une balade demain, c'était un samedi, demain après-midi. » D'accord. Et puis le lendemain, alors au cours de cette balade, nous avons vidé à chacun notre sac, nous sommes vraiment, vraiment, vraiment réconciliés dans le Seigneur. Nous sommes demandés pardon. Et ce que je voulais vous dire, c'est, on est dans le sujet, hein, et vous dites, Saint-Tige, on est dans le sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est que la relation... Non seulement avec lui, il n'a plus été la même, ça a été une relation. On avait fait le tour de nous-mêmes, on savait ce qu'on était capable de se faire comme mal. Mais il y avait un attachement, un amour, une tendresse, quelque chose qui était nouveau entre nous. On avait expérimenté vraiment la fraternité profondément. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'à un moment donné, les lois du ciel doivent s'appliquer sur la terre. Je vous ai parlé tout à l'heure de droits quand on est citoyen, mais il y a aussi les devoirs. Et ces lois de pardon, ces lois de transparence, ces lois de vérité sont aussi celles du citoyen du ciel. Si je vous dis ça, c'est parce que le Seigneur, bien sûr, nous amène dans une transformation à sa gloire par le fait que nous sommes citoyens du ciel. Je pourrais trouver d'autres exemples, mais l'heure est là, et je suis obligé d'arrêter. Alors, souvenons-nous d'une chose, c'est que le Seigneur veut des franges bleues à nos vêtements. Ce ne sont pas des franges de tissu, mais ce sont des choses qu'il nous donne dans sa parole, dans les messages, dans les réflexions, dans ce que nous lisons, dans ce qu'il nous dit, qui nous rappelle que ce que nous vivons sur cette terre doit être imprégné, imprégné du ciel. Et que nous aurons à traverser des expériences bien pratiques. Ça ne suffit pas de le savoir, il faut le vivre. Et que nous pourrons dire ensuite à d'autres, « Eh bien, j'ai appris. Maintenant, je sais. Et je vais pouvoir faire face aux difficultés qui sont devant moi. » Prions. Seigneur, merci de nous avoir rappelé ce matin ces choses. Nous les savons, c'est vrai, mais tu nous les redis sans cesse. Parce que nous sommes tellement tirés par le bas. Nous sommes tellement tirés vers le bas. Mais Seigneur, toi, tu nous dis vers Jésus, lève les yeux et contemple son visage merveilleux. Et les choses de la terre pâliront. peu à peu. Seigneur, merci de nous rappeler ces choses afin que dans la semaine qui s'ouvre devant nous, nous puissions appliquer ces principes spirituels et goûter ta présence et nous laisser transformer par toi. Au nom de Jésus. Amen.